Pop, popienne, popopien et tous les autres aussi, bonjour. L'homme qui est en face de moi, notre invité Wilfried Lupano pour l'état civil, Wilfried Lupanard pour les intimes, peut se vanter, entre autres, d'avoir réussi à faire parler Eddie Mitchell, que nous recevions il y a 2 semaines, et qui n'hésite pas à faire preuve d'un certain laconisme quand son interlocuteur ne l'inspire pas davantage qu'une borne kilométrique, ce qui, réjouissons-nous, ne fut pas du tout le cas chez nous. Voilà donc déjà un premier point commun entre Wilfried et nous, si l'on prend en compte son goût pour l'imagination, sa curiosité pour ses frères humains, on se rendra vite compte que ce n'est pas le seul. Wilfried s'intéresse effectivement aux sujets les plus divers, aux vieux, aux fourneaux, aux loups, aux slips, aux loups en slip. Et par exemple, il ne s'intéresse pas du tout aux médailles qu'on lui propose parfois d'accrocher à son revers parce que, comme des proches, il estime que les médailles, eh ben, c'est la libido des vieux. Oh, mais voilà donc un homme qui a tout pour nous plaire à Pop Pop Pop. Ça tombe bien. Il vient de publier, dessiné par l'excellent Victor Cheminot, l'indispensable, je pèse mes mots, bibliomule de Cordoue dont nous allons parler dans l'heure qui vient. Cette émission a pour titre « Allons nous promener dans les bois tant que le loup en slip n'y est pas » et Pop Pop Pop, c'est parti.
France Inter. Pop Pop Pop. Antoine de Caunes.
Bonjour, c'est Wilfried Lupano. Je suis l'invité Antoine de Caunes aujourd'hui et on va parler de mules, de l'Andalousie arabo-musulmane, de livres, beaucoup de livres et aussi peut-être un peu de coups de poing dans la tronche.
Oh, ça c'est un programme. Et puis alors je rectifie tout de suite parce que j'ai dit Victor Cheminot alors que c'est évidemment Léonard. Cheminot qui va nous rejoindre dans quelques instants. Pour la petite histoire, j'ai dit Victor Cheminot parce qu'en fait Victor c'est le fils de mon meilleur ami Chalumeau. Donc Victor Chalumeau, Victor Cheminot.
Tout s'est mélangé.
Vous voyez ce que je veux dire. Bon, bonjour Wilfried Lupano.
Et bonjour, bonjour.
Wilfried Lupano ou Wilfried Lupanard?
Alors, on peut se poser la question. Je vois à quoi vous faites allusion. Et c'est cet infâme Aubion qui a publié les BD Bill. Voilà, comme vous voulez.
Comme je veux. Écoutez, moi, je prends les deux. Bon, qui que vous soyez, bienvenue dans Pop Pop Pop. Wilfried, est-ce que moi, je vous inspire un peu plus qu'une borne kilométrique?
Parce que carrément.
Ouais, je pensais à Eddy l'autre jour. Vous savez qu'à quel point il peut rester taciturne parfois même.
Oui, c'est un art chez lui.
C'est un art, ouais. On est d'accord. Vous ne pratiquez pas cet art-là, j'espère.
Non, pas du tout.
Bon, et comment ça s'est passé justement avec Eddy alias Mimille qui a récemment fini le tournage des Vieux Fourneaux 2 dont vous aviez à nouveau assuré le scénario?
Le mieux possible. On a fini de tourner ça. Donc Christophe Duturon, le réalisateur, a fini de tourner ça il y a 15 jours à peu près. Ils se sont retrouvés avec le même appétit, la même bonne humeur, j'ai eu l'impression. Moi, j'ai adoré les voir à nouveau dans cette partition. Mmh. Je suis venu de temps en temps fouiner sur le tournage et donner des conseils
des
non
conseils.
Sollicités.
Oui, oui, bien
vous
sûr.
Savez comment on peut perturber comme ça un tournage avec beaucoup de bonheur. Voilà, c'était très chouette.
D'une manière générale, d'ailleurs, vous préférez écrire pour des vieux acteurs? C'est pas pour moi, c'est pour un ami.
Non, c'est pas une passion non plus, mais faut quand même reconnaître que là, la bande, Pierre Richard, Bernard Lecoq, Eddy Mitchell, Patrick Ligarde, il y a vraiment une super équipe, mais aussi Alice Paul quand même qui est toute jeune et qui malgré tout j'ai un grand plaisir à écrire pour elle, surtout donc sur un deuxième film comme ça, je savais à l'avance que c'était eux qui allaient dire les textes.
Bien sûr.
Et ça change la façon dont on les écrit, parce qu'on connaît leur façon de
leur phrasé,
la petite musique, leur petite musique personnelle, et j'ai trouvé ça très plaisant.
Vous pouvez nous dire 2 mots de ces Vieux Fourneaux, alors la suite, le 2, parce que pour ce qui est de la BD, on en est déjà au tome 5.
6, comme le temps file.
Vous avez raison, absolument 6.
Oui. Ce deuxième opus va parler un petit peu d'un thème qui m'est cher ces temps-ci, qui est celui de l'accueil des réfugiés, qui était déjà présent dans le tome 5 des Vieux Fourneaux, qui s'appelle donc « Bon pour l'asile », et c'est le nom aussi de ce deuxième film. Nos personnages, la branche parisienne, là, l'espèce d'activiste d'un groupe d'octogénaires qui s'appelle Ni Yeux Ni Maître, qui sont des anarchistes malvoyants, se retrouvent embêtés avec l'immeuble dans lequel ils hébergent des demandeurs d'asile. Et donc, ils choisissent de les amener chez Antoine, à la campagne, sans le prévenir. Et c'est le début donc de l'histoire qui se passe dans le petit village de Moncœur.
Eh bien, écoutez, un sujet d'une brûlante actualité, va-t-on dire ?
J'ai l'impression.
J'ai l'impression, nous sommes deux à avoir cette impression. Wilfried Lupanot, je le disais, vous vous intéressez au loup, au slip, au loup en slip et au loup tout court, ce qui me fait penser d'ailleurs à un autre loup, quand je vous vois, c'est Lou Reed. Lou Reed, c'est vraiment une pure association. Bon, d'accord. Avec ce morceau extrait de Coney Island Baby en 76, c'est une petite pépite qui a pour titre Nobody's Business. Nobody's Business, c'est un morceau signé Lou Reed pour un fan de Lou, Wilfried Lupanot. Ensemble, nous allons parler de votre nouvelle BD, La Bibliomule de Cordoue, qui est éditée chez Dargaud, illustrée par Léonard Cheminot. Léonard Cheminot qui va nous rejoindre dans quelques instants téléphoniquement parlant. Et avant de prendre la direction de l'Andalousie, à la fin du premier millénaire, une Andalousie où rayonnait alors la culture arabe, je voudrais comprendre votre mode de fonctionnement, mon cher Wilfried, parce que si vous êtes devenu un des scénaristes les plus cotés, c'est le jeu de rôle qui vous a aidé à développer un imaginaire, et un imaginaire qui se promène aujourd'hui de la science-fiction à l'époque contemporaine, ou donc l'Andalousie du Xe siècle. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment ça s'est mis en place tout ça ? Pourquoi le jeu de rôle ?
Le jeu de rôle, c'est très chouette comme activité. On est avec des amis autour d'une table, avec des dés, des feuilles de papier, et juste en se parlant les uns les autres, on fait exister des univers et des aventures complètement folles. Mmh. Et ce que j'aimais beaucoup dans le jeu de rôle, c'est que ces aventures, elles n'auront de corps et elles ne resteront dans les souvenirs que des gens qui étaient autour de cette table à ce moment-là. C'est un truc qui nous lie pour toujours, en quelque sorte, et qui est comme une espèce de secret de clan. Mmh. Et j'adorais cette activité, qui en plus est basée sur le fait qu'on se parle les uns les autres. Si on ne se parle pas, rien n'existe dans le jeu de rôle, donc je trouvais ça très, très chouette. Le jeu de rôle, c'est aussi une super école pour développer son imaginaire, en particulier inventer des personnages, des situations, des conflits, des enjeux. Et par contre, c'est pas du tout une bonne école pour structurer un récit, ouais. Parce que
c'est basé,
il y a l'impro, on doit se fondre dans les décisions que prennent les joueurs et s'adapter à leurs choix. Donc en fait, on se démerde avec tout ça. Mais déjà, ça m'avait donné ce goût pour l'écriture, créer des situations inattendues, des personnages intéressants qui ont de la profondeur et des intrigues, etc. Pour la partie structure, après, j'ai dû aller chercher ça ailleurs. Voilà, je suis allé chez Goscinny, notamment. Voilà.
C'était quoi votre rôle préféré, à l'époque, le genre de rôle que vous préfériez?
Moi, j'aimais être le maître du jeu, parce que le maître du jeu incarne tous les personnages que rencontrent la petite troupe. Oui. Donc, chaque joueur incarne un personnage, mais le maître du jeu incarne tous ceux qu'il rencontre.
L'auteur,
aussi.
Donc.
Voilà, en quelque sorte. Mmh. Et ça, j'aimais beaucoup, passer d'un personnage à un autre tout le temps face à eux.
J'imagine que la bibliomule de Cordoue a dû vous demander un colossal travail de recherche, puisqu'on parle là d'une époque qui n'est pas connue pour être particulièrement documentée. Est-ce que ça rend pour vous le projet encore plus excitant quand vous avez à plonger dans un univers dont tant de traces ont été effacées?
Ah oui, alors, excitant, c'était excitant, mais alors... je me suis demandé à un moment donné pourquoi je me lançais dans ce genre de truc, parce que c'est-à-dire que quand je suis tombé sur au détour d'une lecture comme ça sur l'histoire de l'incendie de la grande bibliothèque de Cordoue, j'ai ressenti très fort le besoin de raconter cette histoire. Mmh. Et l'instant d'après, je me suis dit, mais mon garçon, car je me dis parfois mon garçon.
Vous vous appelez mon garçon.
Je m'appelle mon garçon. Tu ne sais rien sur l'islam du Xe siècle.
Et puisque la bibliothèque a brûlé, par définition, les traces ont disparu.
Et alors, il n'y a plus. Puis ensuite, il y a eu toute une période dans les années qui ont suivi l'incendie de la bibliothèque de Cordoue. Il y a eu aussi l'éclatement de ce royaume en plein de petits royaumes, etc. Donc en fait, oui, toute cette période ne croule pas sous la documentation historique. Il y en a pourtant. Mais surtout, elle ne croule pas elle n'a pas beaucoup inspiré les auteurs. On n'a pas énormément de grands récits qui nous y ramènent, ou de récits populaires qui nous y ramènent. Donc il n'y a pas déjà un imaginaire construit autour de cette période. Ouais. Or, moi, donc, ce que j'ai découvert dans les quelques livres d'histoire que j'ai pu parcourir, c'était un univers qui m'a vraiment fait rêver, qui m'a inspiré, qui m'a donné envie de m'y plonger. Quoi.
400 000 livres qui sont partis en fumée au moment de ce fameux incendie. Vous-même, votre bibliothèque, qu'est-ce qu'on y trouve, Wilfried Lupano?
Oh, on y trouve beaucoup de choses. J'ai cette maladie là dont j'ai oublié le nom, qui consiste à acheter des livres tout le temps.
Et j'ai la même.
Et à être incapable de m'en séparer la plupart du temps. Mm-hmm. J'ai lu beaucoup de romans dans ma jeunesse. J'en lis beaucoup moins aujourd'hui. Mm-hmm. Donc, la plupart du temps, je lis des livres sur les sujets qui me passionnent. Donc, je lis des livres pour apprendre. Et j'ai une espèce de syndrome de l'imposteur plus, c'est que j'ai une tendance à la surdocumentation. C'est-à-dire, avant de parler d'un sujet, je me sens obligé de me surdocumenter sur ce sujet-là parce que j'ai peur de raconter des conneries, j'ai peur de me faire reprendre. Etc., etc. Il y a 2-3 ans, j'ai fait une bande dessinée complètement stupide sur une qui s'appelle Maharaja, qui se passe entièrement dans une usine de bouffe pour chats. C'est du humour noir. C'est très très con comme bande dessinée. Il a fallu que je me documente, que je sache tout sur la bouffe pour chats. Alors que j'ai même pas de chat. Non, c'est une pathologie.
Écoutez, j'en ai 3, moi, je veux bien vous en céder un. Bon, la bibliomule de Cordoue, votre nouvelle BD, Wilfried Lupano. On en parle dans la suite de Pop 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 avec Charline Roux, juste après I Love You, I Hate You. C'est un morceau de la jeune rappeuse américaine Little Sims.
So much, I would give my life for this. If the bullet was the beat, I would probably die for this. how many times did I cry for this? I would hate myself if I didn't at least try for this. What's at stake is bigger than me. Blood, tears, how it stains, can't rid it with ease. What we have in common is our pain. We're given the keys to unlock what it takes to fight for what we believe in. Hard to confront the truth of what you see in the mirror. Some people you inspire and others you trigger. Fighting a blind faith led by the internal voice. You might not want to do it, but you don't have a choice. Will the pressure take me to new heights or be my demise? Will my intentions coincide with what I advise? The people looking up to me doing everything right. But who am I to tell anyone how to live their life? Your pain threshold will determine if you survive. I'm amazed by it. Lying to myself, pretending I was never fazed by it. Maybe because you're in my DNA, that's why. Sometimes, always, but right now, you made the promise to God to be there for your kids. You made the promise to give them a life you didn't live. My ego won't fully allow me to say that I miss you. A woman who hasn't confronted all her daddy issues. The day will come when you gotta find all the answers to your sins. Pressures are provided, feeling unhappy within. Or what kind of external family shit up on your plate. But I understand wanting and needing an escape. Too much I said, now the silence giving me headaches. Only through speech can we let go of all this dead weight. Even though I'm angry, don't wanna be disrespectful. Trying to figure out how to approach this in the best way. Hard to not carry these feelings even on my best days. Never thought my parents would give me my first heartbreak. Anxiety giving me irregular heart rate. Used to avoid getting into how I really feel about this. Now I see how fickle life can be, and so it can't wait. Should have been the person there to hold me on my dark days. It's easier to stargaze. I wish then be faced with this reality. Is you a sperm donor or a dad to me, and still mission you live and learn. The world don't show you no mercy from birth. How do you humanize your hero? Grounded, you're only respected if earned. Half-hearted stories can't let your guard down. To get to Nirvana, where do you start out? Angry cause they don't meet your unrealistic standards. Then you realize that they're human and you calm down. Sometimes I'm unbalanced and I think, raw, why am I losing my steps? Lately I'm paranoid, I feel my life is a mess. I'm just using my voice, hope it will have an effect. He was just once a boy, often I seem to forget. Looking at Polaroids, a picture secretly kept. You know what was destroyed, but you don't know what was left. Trying to phase out the noise of all you hear in your head. Everything is a choice and anything can be said. Is you missing the point? Are you just hearing me vent? Or is you in understanding, knowing my words will connect? I keep you in my prayers, cause life is short as we know. Every mistake you make should contribute to your growth. What you choose to avoid will probably come in your dreams. I'm not forgiven for you, man, I'm forgiven for me. And sometimes
France Inter, Antoine de Caunes. Pop, pop, pop.
Et Charline Roux, car oui, vient de nous rejoindre sur un tapis volant qui s'obstine à ne pas vouloir voler. Charline Roux, bonjour.
De surpoids, sans doute. Bonjour.
Ah mais non, mais c'est la moquette. Et nous a également rejoint, mais à distance, Léonard Cheminot, qui curieusement n'a pas pris le train. Bonjour Léonard.
Bonjour, bonjour. Non, depuis Nice. Depuis Nice.
Ben oui, c'est un peu loin. Et pardon encore une fois de vous avoir appelé Victor en ouverture de cette émission.
Je vous en prie. J'ai un cousin qui s'appelle Victor
on le salue alors. Salut Victor. Charline, embarquez-nous dans la Bibliomule de Cordoue, la BD de Wilfried Lupano et Léonard Cheminot.
Année 976, le califat d'Al-Andalus en Espagne vit dans un climat de paix et de culture. Le calife Abdelrahman III et son fils Al-Hakam II ont fait de Cordoue la capitale occidentale du savoir. Mais Al-Hakam meurt jeune et son fils, enfant, se retrouve sous le tutorat d'un vizir sans légitimité, Amir. Ce dernier a une grande soif de pouvoir et des alliés dont l'obscurantisme n'a d'égal que l'envie de se venger de ce pouvoir éclairé. Ils veulent voir brûler les 400 000 livres de la bibliothèque de Cordoue. La veille de l'autodafé, Tarid, eunuque en charge de la bibliothèque, charge autant de livres qu'il le peut sur le dos d'une mule qui passait par là avec Marwan, son ancien apprenti devenu voleur. L'étrange attelage est rejoint par Loubna, une jeune copiste noire. Ensemble, mais poursuivis, ils vont tenter de sauver la précieuse cargaison. Cette histoire s'appuie donc sur un fait authentique, la purge de la bibliothèque de Cordoue par le vizir Al-Mansour. Vous disiez ne pas savoir grand-chose de l'islam médiéval. Comment est-ce que vous avez eu connaissance de ce drame en particulier ?
Ce drame en particulier, je l'ai découvert en me documentant sur la destruction du savoir de l'homme par l'homme. C'était mon petit sujet pendant un moment. Toutes ces périodes où on aime bien se savonner nous-mêmes la planche en défonçant notre propre culture, enfin la culture de l'autre en général, pas la nôtre, mais encore que ça se discute. Et voilà, je suis tombé sur cet épisode. Et je me suis immédiatement demandé pourquoi je n'en avais jamais entendu parler, ni dans ma scolarité, ni dans ma formation, ni pas seulement de l'incendie de la bibliothèque de Cordoue, mais je dirais de toute cette civilisation d'Al-Andalus.
Les deux siècles de l'occupation.
500 ans à peu près, ils arrivent vers 700, ils franchissent le détroit de Gibraltar en 711. Et donc, jusqu'à la Reconquista, 1200, il y a donc 500 ans de présence arabe en Espagne, totalement passée sous silence en général dans la façon dont on nous enseigne l'histoire de l'Europe. Donc ça m'a interpellé, j'ai eu envie de partager tout ça immédiatement.
Alors Léonard, même question que celle posée à Wilfried plus tôt. Comment recrée-t-on pour vous visuellement un monde, celui de l'Andalousie du Xe siècle, dont les traces ont pratiquement toutes été effacées?
Oui, c'est sûr que c'était pas évident. On n'avait pas beaucoup de sources documentaires. Il y a quand même un musée à Cordoue qui existe et qui parle un petit peu de cette période. On a quelques éléments, des objets, par exemple, des bijoux qui nous sont parvenus jusqu'à nous. Donc on peut repartir là-dessus. On a dans les pages de garde de l'album, par exemple, on a une espèce de fresque un peu avec des fleurs, des plantes et tout ça. Et du coup ça vient d'une boîte qui est venue jusqu'à nous. Voilà. Donc on a quelques fragments qui sont parvenus, et le reste, en fait, on a dû le recréer. Et la priorité qu'on avait avec Wilfried, c'était vraiment que ce soit très très fluide et très très lisible. Oui. Et donc du coup, on a pris quelques petites libertés avec la réalité historique pour garantir ça, quoi, pour garantir la lecture.
Ça l'est fluide.
Ouais. Cette histoire d'un autre siècle n'est pas sans résonance aujourd'hui, puisque de 2012 à 2016, alors que Damas imposait un siège, dans la banlieue d'Araya, il y a une quarantaine d'hommes qui ont décidé d'ouvrir une bibliothèque clandestine en rassemblant tous les ouvrages récupérés sous les décombres de la ville. La bibliomule de Cordoue, c'est de fait une BD engagée, une sorte de rappel que le savoir, c'est le pouvoir.
Oui, exactement, et qu'il y a un rapport originel entre le savoir et le pouvoir. J'étais encore en train de travailler quand il y a eu cette histoire à Damas de ces gens qui allaient ramasser des livres dans les décombres de la ville pour les mettre en sécurité, mais aussi à disposition dans des parkings souterrains de la ville. Et on voyait des images de ça, et ils faisaient ça avec des brouettes. Et je me suis dit, c'est exactement le même sujet, c'est la même chose, donc ça ne passe pas. Comment on sauve le pouvoir, le savoir, en temps de guerre, en temps de destruction? On imagine évidemment tout ce qu'on a pu perdre dans l'histoire de l'humanité, à travers les sacs des villes, les incendies, etc. C'est évidemment un sujet qui m'a vraiment touché. Et en particulier à cette époque-là, un livre qui est présent dans la grande bibliothèque de Cordoue, c'est un ouvrage évidemment unique, tracé à la main, etc. Mais c'est aussi des livres sur lesquels chaque personne qui venait là pour le consulter laissait des annotations. Tout le monde ne venait pas à la grande bibliothèque de Cordoue, c'était réservé à une certaine élite intellectuelle. Et donc, le livre n'était pas sacralisé. On écrivait dans les marges ce qu'on pensait de tel passage, et où on recommandait le commentaire d'un lecteur précédent. Donc c'était un peu comme les réponses aux commentaires aujourd'hui sur les réseaux sociaux, vous savez, c'était la même chose. Donc quand on détruit un livre comme ça, on détruit parfois 30 ans, 40 ans de réflexions posées par des philosophes qui ont été apposées dans les marges. On détruit beaucoup plus qu'une copie du livre. Donc c'est quelque chose de vraiment tragique.
Léonard, c'est aussi quelque chose qui vous a sauté aux yeux en travaillant sur le sujet, cette destruction des traces précédentes.
Moi complètement. Moi j'ai été complètement fasciné par, quand j'ai reçu le scénario de Wilfried, j'ai eu un temps d'arrêt aussi. Je me suis rendu compte en fait qu'il y avait énormément de choses que moi je savais, que j'avais appris à l'école, et je pensais qu'il venait de la Renaissance italienne, qu'on a tendance à tous connaître en France. Enfin, on nous apprend que c'est c'est vraiment
le point de départ.
Ça, le point de départ, voilà, de notre civilisation. Et en fait, en travaillant sur l'album, je me suis aperçu qu'il y avait énormément de savoir qui venait en fait, qui était passé par Al-Andalus, quoi.
Ouais.
Donc il y a eu beaucoup de destructions, mais moi j'apporterai un point un peu optimiste, c'est-à-dire qu'en fait, malgré toutes ces destructions, le savoir est quand même passé, quoi. Mm-hmm. Et on a réussi, ça a réussi à venir jusqu'à nous.
C'est quoi cette manie, c'est une question que je pose à tous les deux, de brûler des livres qui revient comme ça, assez cycliquement?
Oui, oui, on peut se poser la question. Hein. Bah alors, c'est très tentant d'abord parce que c'est du papier, je pense, qu'il y a un côté ludique. Hein.
Encore que vous posez la question dans la dernière page du livre du numérique.
Bah oui, qui est une autre façon. Ouais. Et puis, comme on vient de le dire là, la meilleure façon de détruire entre guillemets du savoir, c'est avant tout de l'invisibiliser, quoi. Ouais. Le par exemple là, toute cette période dont on est en train de parler, si moi on n'en a pas entendu une ligne pendant notre scolarité, c'est pas parce que les sources n'existaient pas. Il y a des livres d'histoire qui en parlent, c'est très documenté par les historiens. C'est juste qu'à un moment donné on a choisi de passer sous silence toute cette partie de l'histoire de l'Europe parce que elle ne colle pas avec notre roman national ou européen. Donc c'est plus un choix qu'un manque de sources.
Quand on est scénariste, quand on est dessinateur, est-ce qu'il y a une saveur particulière à écrire un livre sur les livres, un livre sur les beaux livres qui lui-même se présente comme un grimoire avec des dorures, avec un marque-page intégré, comme ça ne se fait presque plus.
Oui, alors ça, évidemment, c'était extrêmement...
Léonard.
Hein. Ouais, c'était l'activité extrêmement gourmande et encore, on aurait pu se lâcher beaucoup plus. Hein.
C'est très très beau. Hein.
On a un éditeur qui est là pour nous mettre des coups de balai et nous dire vous allez vous calmer. Mais c'est vrai que c'est très tentant puisque le livre parle de l'objet livre sacré de mettre dans les mains du lecteur quelque chose qui y ressemble un peu, pour qu'il y ait un côté ludique. Bien sûr, on avait envie de présenter un bel objet.
Léonard, vous êtes fier du bébé ?
Ouais, bah écoutez, ouais, on a fait en tout cas tout ce qu'on pouvait, hein, parce que dans l'album déjà, faut quand même citer, on a deux autres contributeurs, il y a Christophe Bouchard qui a fait les couleurs et Ségolène Ferté qui a fait les calligraphies qu'on retrouve à certains passages du livre. Et sur la maquette globale du livre, en fait, on a un directeur artistique qui est Philippe Ravon chez Dargaud, qui nous a aidé à fabriquer l'objet le plus beau possible.
Et votre fils aussi, je crois, qui a participé.
Et mon fils, c'est tout à fait. Voilà, qui a fait des petits croquis que j'étais plus capable de faire, parce qu'on oublie comment dessiner simplement quand on grandit.
Bon, le résultat, c'est cet objet magnifique, ce livre passionnant qui s'appelle La Bibliomule de Cordoue. C'est la BD de Wilfried Lupano et de Léonard Cheminot dont on parle aujourd'hui. C'est édité chez Dargaud et on va continuer à en parler dans un instant. Mais pour l'instant, je vois qu'il est 16h31, ça veut dire que c'est l'heure des Pop News.
Un nouveau titre pour le gang de Baltimore, Animal Collective, un titre hommage à Scott Walker, idole de la jeunesse de Bowie et par la suite de Bashung, de Jarvis Cocker, de Last Shadow Puppet. C'est donc d'Animal Collective qui signe ce morceau tout simplement titré Walker. Walker a retrouvé sur Times Kiffs l'album d'Animal Collective prévu le 4 février.
Paolo Sorrentino se raconte à travers l'histoire dans le Naples des années 80 de Fabietto Schizza, un adolescent mal dans sa peau qui vit avec sa famille excentrique et dont le quotidien est soudain bouleversé lorsque Diego Maradona, légende planétaire du football, débarque à Naples et le sauve miraculeusement d'un terrible accident.
Tu as pleuré ?
Non, j'arrive pas. La réalité me plaît plus. La réalité, c'est ringard.
Fabietto, tu dois maintenant te tourner vers l'avenir.
Comment c'est possible qu'en regardant cette ville, t'aies vraiment rien à raconter ?
Il faut qu'on trouve ce qu'on veut faire plus tard.
Je dois penser un peu à ce qui me rend heureux. Pas toi ?
Mais n'oublie pas que toi, t'es libre.
Le film s'appelle La Main de Dieu, au casting l'excellent Tony Servillo et ça sort ce vendredi sur Netflix.
Et j'annonce d'ores et déjà le film le plus zinzin de l'année, Un talent en or massif de Tom Gormican, dans lequel Nicolas Cage joue un acteur endetté qui attend le grand rôle qui relancera sa carrière, un acteur nommé Nicolas Cage. Pour rembourser une partie de ses dettes, son agent lui propose de se rendre à l'anniversaire d'un milliardaire, son plus grand fan, qui semblerait être un criminel sur lequel le FBI enquête. Le milliardaire en question est joué par Pedro Pascal.
The guy that owns this house, what's his name?
Harvey.
Look, if Harvey wants me to fuck his wife or watch me watch him fuck his wife, that's a no-go. You understand? That's no bueno.
I am Harvey.
Nick Cage.
The Unbearable Weight of Massive Talent, un talent en or en VF, ça fait drôlement envie, ça sort le 20 avril dans les salles.
France Inter. Pop-pop-pop. Antoine Decaune.
Ah si, c'est moi.
Eh ben, c'est Paolo Sorrentino.
Mais oui, c'est pour dire que le film, il est déjà visible sur Netflix. Et pas les conneries qu'il dit la petite Decaune, là.
La bibliomule, c'est donc un mix de bibliothèque et de mule, et ça vient de bibliobus, ces bus qui venaient dans les villes sans bibliothèque. Mais c'est également une technique de livraison que vous avez observée au Maroc, Wilfried, la livraison par des ânes. En voyant des ânes recouverts de caisses de Coca-Cola, vous les avez renommés les Coca-Colanes.
Oui, mais oui,
c'est
des jeux de mots idiots sur effectivement, oui, il y avait une partie de la Médina de Tanger, me semble-t-il, qui est fait en escalier, quoi, et donc les véhicules peuvent pas monter pour livrer les commerçants, c'est tout bête, donc on continue à fonctionner avec des ânes qui sont plus adaptés que les petites camionnettes. Mmh. Et voilà, j'avais rigolé, il y avait des Coca-Cola partout, ça me faisait rire. Voilà.
Ils sont pas tous aussi réquis le citron que la mule dont on parle dans ce livre.
Alors même s'il n'existe que peu de traces de cette période, pour les besoins de cet ouvrage, vous avez rencontré des historiens. Que vous ont-ils raconté ?
Oh, plein de choses. Ils m'ont, en particulier Pascal Burezi, qui nous a fait l'amitié de cette sublime postface à la fin du livre, pour nous redonner un peu de contexte historique. Il nous a décomplexé sur notre vision, notamment esthétique et graphique de cette période-là. En nous disant, ce que vous avez dessiné, ce que vous avez réalisé, ça ressemble un petit peu à Bagdad, à la culture de Bagdad, mais on peut raisonnablement penser que vous n'avez pas tort, parce que on sait que le califat de Cordoue était très à l'écoute de ce qui se faisait à Bagdad. Il voulait pas être les ploucs de l'islam. C'était un second califat. Il voulait être d'égal à égal avec Bagdad. Et donc, ils étaient très friands de nouvelles qui arrivaient par la Méditerranée, de comment on vivait à Bagdad, comment on s'habillait, qu'est-ce qu'on faisait d'un point de vue architectural, etc., pour ne pas être en reste. Donc, c'était intéressant de voir qu'il y avait quand même cet apport qui traversait toute la Méditerranée déjà à cette époque-là. Pascal Burezi nous a aussi donné son sentiment sur la façon où, pour lui, même à cette époque-là, déjà le savoir des livres, la destruction des livres a une dimension beaucoup plus symbolique. Et qu'en réalité, des copies existaient et que le savoir ne disparaissait pas tant que ça avec ce genre de geste, parce qu'il existait toujours des copies ailleurs et que le savoir trouve son chemin malgré tout, dans une autre bibliothèque. Et d'ailleurs, le vizir Al-Mansour lui-même, cette espèce de cynique absolu, avant l'autodafé, il était passé faire ses courses. Et prendre un certain nombre d'ouvrages dans la bibliothèque pour le mettre dans la sienne. Ouais. Parce qu'il n'était pas non plus complètement débile, c'était un intellectuel. Et faire brûler des livres, il avait dit « Ok, d'accord, ça va plaire, etc. » Mais enfin, il y a là-dedans quelques ouvrages, il ne faut pas pousser, je les veux chez moi.
Léonard Cheminot, quand on parle de cet univers disparu, j'imagine que pour un dessinateur comme vous, ça doit être totalement fantasmatique quand on s'attaque au chantier. Parce qu'entre le début du storyboard et la fin de l'ancrage, il s'est écoulé 2 ans et demi. C'est donc plus compliqué à dessiner qu'une aventure de la Linéa, ce petit personnage qui marche sur une ligne, non ?
Ouais, tout à fait. Et 260 pages, et en fait, c'est un genre de road movie, et donc il fallait vraiment que ce soit très très cohérent du début à la fin, et que l'univers graphique se tienne en fait sur 260 pages, et c'est plus facile à dire qu'à faire en fait. Et donc on a vraiment travaillé le storyboard je pense qu'il a dû rester en suspens pendant plus d'un an. C'est-à-dire qu'on revenait en permanence dessus, on retravaillait, on allongeait certains passages, on en raccourcissait d'autres. On avait, là, par exemple, à un moment, Tarid, le personnage principal, perd une babouche. Il la lance de rage sur son pied gauche, en fait. Et donc, c'est tout bête, mais c'est comme au cinéma, il faut veiller après sur toute la suite de l'histoire que sur son pied gauche, il n'y ait plus de babouche. Et c'est tout un tas de petits trucs comme ça. La mule aussi, il fallait qu'elle soit le plus expressive, la plus expressive possible. Et voilà. Donc, on a vraiment, vraiment, bossé. Pendant du coup 2 ans et demi pour arriver à avoir ça.
Vous mettez en scène dans la bibliomule des gens qui se rebellent contre le pouvoir sans vraiment avoir les moyens de leur rébellion. Ce sont des intellectuels pas franchement faits pour l'aventure. C'est à la fois extrêmement touchant, cette volonté de sauver le savoir, et parfois c'est source de comique, entre autres à cause de la mule récalcitrante. Traiter un sujet aussi grave, ça nécessite un peu de légèreté.
Ah ouais, complètement. Sinon c'est effectivement c'est glauque. Sinon c'est très fait historique aussi. C'est très. Moi j'aime pas trop la bande dessinée historique en fait. J'aime bien que ça soit qu'on se rende pratiquement pas compte que c'est de la bande dessinée historique qui a des faits historiques derrière, etc. Ce qui m'intéressait dans cette histoire, c'est vraiment justement la non-compétence absolue des gens qui choisissent le refus. Le refus de l'inéluctable injustice qui leur est présentée. Ils refusent ça. Ils n'ont pas les moyens de le refuser, mais ils le font quand même. Et ce côté, on va se rebeller en se rebellant, on réfléchira sur la route, à toute ma sympathie. Je trouve que c'est vraiment quelque chose de moderne, d'urgent, qu'on peut retrouver aujourd'hui dans des phénomènes de résistance, de désobéissance civique, etc., qui est de l'ordre du spontané, de quelque chose que l'on ressent. Et on se dit, on verra bien en le faisant. Et c'est pour ça que ma petite bande, là, c'est quand même une synergie d'incompétents dans le sujet qu'il aurait proposé, c'est-à-dire le voyage et le... C'est une histoire de réfugiés aussi.
Ouais.
Dans les deux sens, Tarid n'est pas arabo-musulman. C'est un esclave. Ouais. Il est du nord de l'Europe et il a été...
Très prisonnier.
Déplacé, ouais.
Voilà, il a été ouais. déplacé et il a grandi dans cette culture-là qu'il a appris à aimer. Il en est le fruit. Et cette petite équipée là, ces trois personnes et cette mule, ils cherchent un endroit où se réfugier. C'est une histoire toute bête. Hein.
Avec leur cargaison de livres précieux. Léonard Cheminot, vous êtes ingénieur au départ et vous avez tout arrêté pour devenir pour être dessinateur. C'est parce que vous pensez qu'on peut penser les choses, on peut changer les choses, pardon, et convaincre les gens à travers les livres. C'est un scénario qui était donc totalement du sur-mesure pour vous.
Ah oui, ouais, complètement. Moi, j'ai arrêté une lucrative carrière d'ingénieur prometteuse en tout cas, pour pouvoir faire de la BD qui est beaucoup plus précaire. Et c'est ouais, moi mon objectif, c'est vraiment d'arriver à changer les choses, à changer un petit peu de la vision du monde chez certaines personnes. Et là vraiment cette BD, c'était vraiment l'objectif était vraiment rempli. Donc moi j'ai il faut de toute façon encore une fois là 260 pages. C'est pratiquement 3 ans de boulot. Il faut une énorme motivation à la base pour pouvoir s'atteler à la tâche. Et donc il faut que ça trouve une utilité, quoi. Donc là, ça l'a rempli complètement.
Léonard, vous parlez d'une aventure hybride entre Le Nom de la Rose et La Grande Vadrouille. Vous, Wilfried, vous parlez d'un mule movie. Est-ce qu'il y a des précédents dans la pop culture?
Il y a là chez le prisonnier ce qui s'en rapproche le plus en quelque sorte, et puis le fameux voyage de Stevenson à travers les Cévennes,
ouais,
avec un âne que j'ai relu avant de me mettre à l'écriture. Ouais. Parce que justement son rapport avec la bête ça m'intéressait, je voulais voir, parce que c'est une bête très particulière, la mule ou l'âne. Et moi-même d'ailleurs, j'ai pas fait aussi long, mais je suis parti faire un petit voyage avec mes enfants et un âne en autonomie dans les Pyrénées pour voir un petit peu ce que ça faisait.
Et alors?
Et ben, effectivement, déjà équilibrer la charge de la bête pour pas que ça tombe, ce qui arrive tout le temps dans le bouquin. Ça a été la base de mon travail sur ce fameux tas de livres qui ne peut pas tenir sur une mule. Ça ne peut pas tenir parce qu'ils en ont mis trop. Donc ça tombe, ils les remettent, ça tombe, ils les remettent, et c'est le travail du libraire et du documentaliste. Ils vous le diront tous, ils ont tous des problèmes de dos. Voilà, donc j'avais envie de parler de cette profession-là aussi, quoi. Les gens qui aiment les livres, qui les font circuler, qui les protègent, qui les défendent.
Il y en a des sujets dans cette bibliomule de Cordoue. C'est un livre magnifique, vraiment, félicitations.
Merci.
Écoutez Wilfried, on va encore rester ensemble quelques instants. Je voudrais d'abord remercier Léonard Cheminot de nous avoir rejoints pour
merci
ces quelques
vous.
Minutes. Merci Léonard et toutes nos félicitations. C'est vraiment du très
encore
très beau
merci.
Boulot. Merci Wilfried. Dans la suite de Pop Pop Pop, nous parlerons de...
T'as pas d'enfant en bas âge, hein? Parce qu'ici, quand on a des enfants, on se sert de la boîte. C'est la philosophie de la maison.
Figli miei adorati, tra poco la vostra mamma non ci sarà più e ve la dovrete cavare da soli.
du groupe Carte de séjour, du film Les deux Alfred de Bruno Podalides, de la série Anna et de Pop Culture. Tout ça, ce sera juste après un extrait du tout premier album de notre chouchou Maxwell Farrington. L'album s'appelle sobrement Maxwell Farrington et le morceau que je vous propose tout de suite, c'est Norway. Cet extrait de Maxwell Farrington, le nouvel album de... Eh bien oui, Maxwell Farrington, et c'est un album à écouter évidemment de toute urgence. Vous écoutez en attendant Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Alors ce sont les fameux coups de poing dans la tronche dont vous parliez en début d'émission, et c'est ce qui vous évoque la pop culture, Wilfried Lupano. Pourquoi tant de haine?
Alors moi, c'est marrant parce que ça me fait comme un... C'est hyper régressif, ça me fait vraiment comme un doudou. C'est un son qui m'accompagne, j'ai l'impression, depuis ma plus tendre enfance, le parpin, quoi, la praline.
Ça n'a jamais fait ce bruit-là.
Bud Spencer et Terence Hill. Et c'est quelque chose d'assez fou de se dire qu'à un moment donné, dans le cinéma, on s'est dit... Il faut sonoriser ce truc-là, ça va faire plus festif. Et parce que le son d'un coup de poing, à la base, c'est quand même assez mat, ça peut même être assez glauque, ça fait pas énormément de bruit. Et alors, les épées font des bruits d'épées, les flingues font des bruits de flingues, jusque-là, tout va bien, mais les coups de poing dans la tronche, tout le monde a été un petit peu déçu, je pense, sur le tournage, et on s'est dit, tiens, on va mettre un peu de... on va mettre un peu de peps
un
dans
peu
tout
de fun,
ça.
Ouais, très bien, ça me plaît beaucoup.
Et ça me... Depuis toujours, alors, quand on était gamin avec mon frère, on était... cinéphage de films d'action, on a tout regardé, absolument tout, même les copies de Jackie Chan, etc. On a tout vu, et c'est vraiment un son, moi, qui fait partie de... Oui, on se sent tout de suite bien.
Eh ben, je le garde par deux vers moi. Wilfried, explorons votre planète pop, c'est l'heure de votre pop list.
Oh.
Nous vous avons demandé de choisir un livre, un film, une musique et une série. Votre livre du moment, Wilfried, c'est « On a tous un ami noir », qui n'est pas un livre de Nadine Morano, mais de François Gemenne. Charline, même si vous êtes plutôt roux, dites-nous de quoi ça parle.
François Gemenne enseigne les politiques du climat et des migrations dans différentes universités et propose donc un ouvrage sous-titré « Pour en finir avec les polémiques stériles sur les migrations ». Vous avez donc le programme et l'ambition.
Alors Wilfried, avant de nous en parler, auriez-vous l'amabilité de nous en lire quelques lignes, s'il vous plaît ?
Oui, tout à fait. Alors, il nous dit « L'immense majorité des immigrés ne gagneront jamais de prix Nobel ni de médaille olympique. L'immense majorité des immigrés ne commettront jamais d'actes délictueux. L'immense majorité des immigrés aspirent simplement à mener la même vie que ceux qui sont nés en France, qu'ils aient choisi d'y venir ou aient été contraints par les événements. Mais on ne nous montre jamais les immigrés dans des situations normales. Nous ne les voyons jamais cuisiner des pâtes, conduire leurs enfants à l'école ou acheter un livre dans une librairie. Nous les associons systématiquement à des problèmes de budget ou d'intégration ou à des situations de crise, de détresse ou de violence. Le résultat, c'est qu'une bonne partie des gens s'imaginent que tous les immigrés vivent dans des camps, ne travaillent pas et sont arrivés en bateau au péril de leur vie. »
Extrait de « On a tous un ami noir » de François Gemenne. Alors pourquoi ce livre trône-t-il sur votre table de chevet qui est bien encombrée, si j'ai compris ?
Oui, parce que j'ai trouvé ce livre assez brillant, le travail de François Gemenne également, et qu'il oppose des études sociologiques, des chiffres, des réalités documentées, implacables, à une gestion des crise migratoire avec plein de guillemets ou de la question migratoire qui est en général uniquement basée sur du ressenti par nos hommes politiques et donc voué à l'échec puisqu'en fait ils ne s'embarrassent pas des vrais chiffres, ils s'en fichent de la réalité chiffrée des problèmes migratoires, ils répondent simplement à un ressenti par du cosmétique. Ouais. Et par contre, ça coûte très cher, c'est voué à l'échec, et ça peut se reproduire à l'infini. Mmh. Et ce livre, pour moi, vient un petit peu invalider tout ça, et il est très facile à lire, très accessible, et je trouve que c'est du bon boulot.
On a tous un ami noir de François Gemenne. Wilfried Lupano, votre film du moment, c'est Les deux Alfred de Bruno Podalydès, avec bien sûr Denis Podalydès. Ah, les frères Podalydès, c'est quand même plus reposant que les frères Karamazov, Charline.
Un peu, mais pas tant. Alexandre, chômeur, incarné par Denis Podalydès, a 2 mois pour prouver à sa femme qu'il peut s'occuper de ses 2 jeunes enfants et être autonome financièrement. Le problème, c'est que The Box, la start-up qui veut l'embaucher à l'essai, a pour principe pas d'enfants.
Bonjour à tous.
Bonjour.
Ici, c'est Rock Child. T'as pas d'enfants en bas âge, hein ? Parce qu'ici, quand on a des enfants, on se sert de la boîte. C'est la philosophie de la maison.
Alexandre, on a une conf call dans 12 minutes.
Petit bémol, j'ai dû omettre de dire que j'avais des enfants.
Mais Little Candies.
Là, tu es trop près, parce qu'actuellement, je ne vois que ton nez.
Se fout de ma gueule, Alexandre.
Extrait des deux Alfred de Bruno Podalydès, le choix de Wilfried Lupano. Alors, pourquoi ces deux Alfred, Wilfried ?
Parce que c'est le dernier film des frères Podalydès que j'ai vu, mais de manière générale, j'aime énormément leur cinéma. Je me sens très proche de leur façon d'écrire. Il y a un côté très très poétique tout le temps dans les films de Bruno Podalydès, un petit pas de côté vers aussi l'absurde un peu british, mais avec du tati, beaucoup de tati dedans. C'est vraiment des petits objets, il y a une vraie patte d'auteur, et à chaque fois il y a un regard hyper pertinent sur notre société. Là, un milieu de l'entreprise avec une novlangue et qui est absolument réjouissant. Sandrine Kiberlin, Denis Podalydès dedans sont parfaits.
Autant de raisons de se précipiter pour voir les deux Alfred de Bruno Podalydès. Votre série Wilfried, c'est Anna de Niccolo Amaniti. C'est une mini-série italienne dont je me suis laissé dire qu'elle était d'une grande beauté formelle et qu'il y était question d'une épidémie ravageuse, Charline.
Dans un présent post-apocalyptique, une jeune fille se lance à la recherche de son petit frère victime d'un enlèvement.
Figli miei adorati, tra poco la vostra mamma non ci sarà più e ve la dovrete cavare da soli.
I racconti del fuori.
Il fuori è tutto nero, sono tutti morti.
Le fond et la forme? Tout semble être réuni là dans cette mini-série.
Ouais, sono tutti morti. Et tous les adultes sont morts dans cette série. Cette épidémie frappe implacablement tout être humain qui arrive
jusqu'à
la puberté.
Jusqu'à l'âge de 16 ans. Ouais.
Voilà. Et donc, en fait, dans cette série, il n'y a que des enfants. Donc c'est un bordel sans nom, parce que les enfants ne rangent rien, se déguisent tout le temps, sont assez immoraux ou amoraux. Et donc il y a une très très grande créativité. Les enfants essaient de reproduire la société d'avant, ils ont des cultes. C'est vraiment c'est un univers qui est à la fois très malaisant, beau, cruel, magnifiquement joué et interprété. J'ai trouvé ça super intéressant.
Bien, j'ai ma
série. C'est sur Arte, si je ne m'abuse.
Et c'est sur Arte, et c'est en français, si on veut.
Et en français, sur Arte. Bien, il me manque une chanson. Votre chanson du moment, Wilfried Lupano, c'est Douce France, de Carte de Séjour, avec bien sûr le regretté Rachid Taha. Et j'ai découvert au passage que vous aviez côtoyé la scène post-punk toulousaine.
Oui,
on est entre nous, il n'y a pas de mal.
Mais j'avais un petit bar à Toulouse qui existe toujours, le Bistrologue, on le salue. Le Philochard, pardon, le Bistrologue, c'est celui d'avant, je mélange tout. Le Philochard, et il y avait notamment notre ami Delmotte, Cyril Delmotte, des VRP et des Non-Tropos, qui habitait au bout de la rue et qui nous faisait l'amitié de venir gratter sa guitare régulièrement. Voilà, énormément de chouettes concerts au Philochard.
Et donc, Carte de Séjour ?
Carte de Séjour, ne boudons pas notre plaisir. Cette chanson qui est un ravissement pour les uns, un agacement pour les autres, dans sa version Carte de Séjour. Et ça, je trouve que c'est un petit plus produit.
Eh ben, à vous de faire votre choix, agacé ou réjoui. Allez, Douce France, Carte de Séjour.
Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier. Sur le chemin de l'école, je chantais à pleine voix des romances sans paroles, vieilles chansons d'autrefois. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tant d'insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, au clocher, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur.
Douce France, voilà un traîner que cette version avait absolument ravi. Carte de Séjour, c'est un morceau choisi par Wilfried Lupano, notre invité aujourd'hui. Merci Wilfried. Je rappelle que la Bibliomule de Cordoue, votre nouvelle BD, est éditée chez Dargaud et évidemment plus que recommandée par Pop Pop Pop, vous l'aurez compris. Un petit mot rapide sur Christophe Bouchard qui a assuré la mise en couleur.
Oui, un travail époustouflant de Christophe Bouchard qui a fait un travail pour faire en sorte que toute cette randonnée à travers l'Andalousie l'Espagne arabo-musulmane soit aussi une fête des couleurs. Il a une palette incroyable. Bravo à lui.
Bravo Christophe Bouchard et bravo bien sûr à Léonard Cheminot. C'est un travail titanesque. Merci Charline.
Merci à vous.
On se retrouve demain et je rappelle que demain, il y aura une rencontre dédicace à la librairie Libertalia.
Libertalia à Montreuil à 19h30.
Montreuil à 19h30 avec Wilfried Lupano. Et merci à toute l'équipe de Pop 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 et à Julien Dumont qui était à la technique aujourd'hui.